Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur l'Apocalypse avec une deuxième leçon sur la chute de Babylone la Grande. La semaine passée, nous avons étudié le 17e chapitre de l'Apocalypse, dans lequel un ange puissant a montré à l'apôtre Jean la ville de Rome, sous l'image d'une prostituée qui s'enivrait du sang des chrétiens et qui portait le nom Babylone la Grande. Elle était assise sur une bête rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. La bête représentait l'Empire romain. Les 7 têtes étaient les 7 premiers empereurs. Et les cornes représentaient l'ensemble des petits rois des différents peuples qui étaient alliés ou asservis à Rome. Dans la vision de Jean, la bête et ses cornes se tournent contre la prostituée, la mettent à nu et la mangent. Et c'est Dieu qui a mis dans leur cœur d'agir ainsi. Pourquoi ferait-il ainsi? Pour punir le persécuteur de son Église et pour venger son peuple. C'est Dieu, en effet, qui dirige l'histoire. L'ange du chapitre 17 cède la place à un autre au chapitre 18. Ce messager glorieux déclare la chute de Babylone, c'est-à-dire de Rome, et décrit dans un langage symbolique la désolation qui en résulte. Il annonce que la ville est devenue un lieu désertique. La ville est hantée par des esprits impurs et fréquentée par des animaux sauvages. Ce langage est souvent utilisé dans les prophètes de l'Ancien Testament pour prédire le châtiment de Dieu contre telle ou telle ville. Il faut noter que, bien que les villes dont les prophètes parlaient de cette manière soient bien tombées, elles n'ont pas dans chaque cas cessé d'être habitées par les hommes. Il s'agit souvent de figures de style et non pas de prophéties à prendre au pied de la lettre. La raison donnée pour cette dévastation nous renvoie à l'image d'une prostituée. Rome séduisait toutes les nations, les liant à elle-même par les alliances politiques, en ce qui concerne les rois, et les relations commerciales, pour ce qui est des marchands. Ainsi, les nations participaient à sa corruption. En ce moment, un avertissement est adressé aux saints de se séparer complètement de Babylone. Les versets 4 et 5 disent « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. » Chapitre 18, verset 4. Les saints doivent sortir et ne point participer à ses péchés. En effet, ceux qui partagent ses péchés auront à partager ses plaies aussi. L'histoire de l'Église du IIIe siècle montre la nécessité de cette exhortation. Les écrits de Tertullien, Cyprien et d'autres nous montrent que certains chrétiens poussaient très loin le compromis. Ces auteurs dénoncent par exemple les chrétiens qui gagnent leur vie en fabriquant des idoles, qui exercent le métier d'astrologue, qui s'enrichissent par la fraude ou par l'usure, qui pratiquent la polygamie ou l'adultère et qui se livrent à des superstitions païennes. Il y eut également de nombreux reniements de la foi face aux persécutions. Évidemment, bon nombre de croyants ne sortirent pas vainqueurs de l'épreuve. La partie qui suit ne décrit pas directement l'incendie qui, dans la vision, détruit la ville. Nous n'y assistons qu'indirectement, à travers les yeux de trois groupes d'hommes qui regardent de loin et se lamentent. Le premier groupe est composé des rois vassaux de l'Empire. Au lieu de lui porter secours, tous les anciens amants de la prostituée l'abandonnent et prennent leur distance. Ils sont dans la crainte et l'étonnement devant le jugement de Dieu contre Rome. Les amis des pécheurs sont peu nombreux quand le plaisir se change en douleur. Le deuxième groupe, les marchands, se tiennent aussi à distance dans leur peur, et ils pleurent non par amour de Rome, mais à cause de la perte de leur client le plus fidèle. En fait, la chute de Rome fait qu'il n'y a plus personne pour acheter toutes leurs marchandises. Le troisième groupe, les marins, se lamente aussi de ce que la destruction de Rome représente une perte inestimable pour sa profession. Rome avait depuis longtemps gouverné et facilité toute activité commerciale sur la mer Méditerranée. Tandis que les habitants de la terre sont dans le deuil, les habitants du ciel, y compris les chrétiens, sont invités au verset 20 à se réjouir. Dieu a vengé le sang des martyrs et mis fin à l'oppression et l'injustice du coupable. Dans une action qui rappelle une prophétie de Jérémie contre la première Babylone, en Jérémie 51, versets 60 à 64, un ange prend une grosse pierre et la jette à la mer. Le message : ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus retrouvée. Il annonce par ce geste la disparition définitive de l'Empire romain persécuteur. Les lignes suivantes, en parlant de la destruction de Rome, décrivent la cessation de toute activité humaine à l'intérieur de la ville. Il faut se rappeler une fois de plus que tous les détails des visions ne sont pas destinés à s'accomplir littéralement. Les mêmes termes étaient à plusieurs reprises appliqués à d'autres villes châtiées par Dieu, sans que celles-ci deviennent réellement des ruines éternelles. Rome connaîtrait l'humiliation à cause de ses valeurs matérialistes, sa corruption des autres nations et sa cruauté, manifestée dans ses persécutions, ses guerres et même ses divertissements. Au chapitre 19, nous voyons la réaction du ciel à la chute de Rome. Jean écrit : après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix puissante d'une foule nombreuse qui disait : Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-nous-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit : écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Tandis que les habitants de la terre, c'est-à-dire les partisans de Rome, se lamentent devant la destruction de la ville, ceux qui sont dans le ciel se réjouissent en disant : Alléluia. Ils célèbrent le Seigneur qui a montré que c'est lui qui peut délivrer. Le châtiment de Rome manifeste non seulement la puissance de Dieu, mais aussi sa justice. La foule céleste se réjouit du règne de Dieu. Dieu avait toujours régné et régnera toujours sur le monde. Mais certains avaient perdu de vue cette vérité pendant que les persécutions violentes de son peuple continuaient. Par la chute de l'Empire romain, Dieu a manifesté son règne. Littéralement, selon le verbe grec, il a régné. Il y aura des moments dans l'histoire, comme il y aura des moments dans nos vies individuelles où nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet certaines choses. L'injustice, la souffrance des innocents, la persécution de son peuple, la prospérité des méchants. On se demande Si Dieu est là, s'il est bon et tout-puissant, pourquoi n'agit-il pas? Mais ne mettons pas en doute sa sagesse, qui nous dépasse de loin, et ne mettons pas en doute le fait que notre Seigneur règne, quelles que soient les apparences. Il sait ce qu'il est en train de faire. Faisons-lui confiance et réjouissons-nous quand il agit de telle sorte que tous reconnaissent son autorité et sa justice. La joie que la foule dans le ciel éprouve dans la vision de Jean ressemble à celle d'un festin de noces. Ayant refusé de devenir la maîtresse des empereurs, l'Église peut se présenter pure et sans reproche au Christ, son époux. Elle est parée de fin lin, les œuvres justes qui la rendent si belle aux yeux de son époux. Au verset 9, l'image collective de l'Église comme épouse de Christ cède la place à celle des saints individuels, présentés comme les invités et les amis de l'époux. L'ange prononce une bénédiction, la quatrième de l'Apocalypse, à l'égard de ceux qui sont appelés au festin. Alors Jean dit, et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. L'émerveillement de Jean devant les scènes que cet ange glorieux lui montrait le poussa à se prosterner pour l'adorer. Mais l'ange l'arrêta. Bien que les paroles que l'ange lui adressait soient les paroles de Dieu, le messager ne devait pas recevoir l'honneur dû à celui qu'il avait envoyé. Personne, que ce soit un homme, un ange ou un saint du passé, ne doit recevoir l'adoration. C'est une erreur que les hommes continuent de commettre de nos jours. Ils oublient que c'est Dieu seul qui est maître et que nous sommes tous des serviteurs, que ce soit des chefs religieux, la mère de Jésus, les grands chrétiens d'autrefois ou même les anges. On ne doit pas se prosterner devant leurs personnes ou leurs images. On ne doit pas les prendre comme des médiateurs ou leur vouer un culte. Même les anges, aussi puissants et glorieux soient-ils, ne sont donc que des compagnons de service pour ceux qui ont le témoignage de Jésus. C'est Jésus et non pas un ange qui fait l'objet de notre foi et adoration.
Gloire à Dieu.